Tu as une question à poser? Ne comptez pas sur mes questions, je les apporte toujours, mais je les remporte.
Il faut qu'on devienne le divin d'abord avant qu'il puisse supporter la pression de l'amour divin.
Qu'est-ce qu'il faut?
Il faut qu'on devienne soi-même le divin avant qu'il puisse supporter la pression de l'amour divin.
Il faut qu'il, qui il?
Il faut qu'on devienne.
Il faut qu'on devienne
soi-même le divin avant qu'il puisse supporter la pression de l'amour divin. C'était en anglais dans le diary.
Hein?
C'était dans le diary en anglais.
Oh, vous traduisez librement.
On doit être soi-même divin avant de pouvoir supporter la pression de l'amour divin.
Alors, qu'est-ce qu'on demande?
On demande que l'amour divin se répand sur la terre avant que l'homme devienne le divin. Pourquoi demander que l'homme devienne le divin d'abord?
Je ne crois pas que ce soit ça que ça veut dire. Certainement, vous voulez dire que l'amour divin ne peut se manifester que quand l'homme sera divin. Est-ce ça que vous voulez dire?
C'est ça qu'on comprend.
Oh, c'est comme ça qu'on comprend. Mais je crois pas que ce soit ça que ça veut dire. D'abord, nous allons prendre le fait historique, s'il y en a. C'est-à-dire que par suite de l'action des forces de séparation, la conscience était devenue conscience et que la matière a été créée telle qu'elle est sur une base d'inconscience si totale qu'aucun contact ne paraissait possible entre l'origine et ce qui était créé. Et c'est cette inconscience si totale qui a rendu nécessaire une descente directe sans passer par les régions intermédiaires de la conscience divine sous sa forme d'amour. Et c'est cette descente de l'amour divin dans la matière, la pénétrant et ajoutant un élément nouveau à sa composition qui a permis l'ascension lente pour nous, mais l'ascension ininterrompue de l'inconscience vers la conscience et de l'obscurité vers la lumière. Par conséquent, on ne peut pas dire que l'amour ne peut se manifester que lorsque la création devient divine, parce que c'est au contraire à cause de sa manifestation que la création est capable de redevenir divine. Ce que j'ai dit là ne concernait pas ça. Je parlais non pas du monde en général, mais de la conscience humaine en particulier. Et certainement, je faisais allusion au fait que cet amour divin qui anime tout, pénètre tout, supporte tout, et mène tout vers le progrès et l'ascension vers le divin, n'est pas senti, n'est pas perçu par la conscience humaine et que même dans la mesure où l'être humain le perçoit, il a de la difficulté à le supporter, à non seulement à le contenir, mais à pouvoir le tolérer, parce que sa puissance dans sa pureté, son intensité dans sa pureté, sont d'une qualité trop forte pour être supportée par la nature humaine. Ce n'est qu'en le diluant, le déformant, l'atténuant et l'obscurcissant, pour ainsi dire, qu'il devient acceptable à la nature humaine. Ce n'est que lorsqu'il s'éloigne de sa nature vraie et de sa qualité essentielle que l'homme l'admet. D'ailleurs, la prouve, il le glorifie. C'est-à-dire que il faut qu'il soit déjà très dévoyé pour être admis par la conscience humaine. Et pour que la conscience humaine l'accepte, le tolère et le reçoive dans sa plénitude et sa pureté, il faut qu'elle devienne divine. C'était ça que je voulais dire, c'était pas autre chose. J'affirmais qu'un être humain, à moins qu'il ne s'élève jusqu'aux hauteurs divines, est incapable de recevoir, d'apprécier et de connaître ce que c'est que l'amour divin. Il faut qu'il cesse d'être divin pour être admis par l'homme. Mais ça, c'est un phénomène de conscience extérieure, superficielle. Cela n'empêche pas que l'amour, sous la forme de grâce, ne soit à l'œuvre partout et toujours, et faisant son travail d'une façon, pour ainsi dire, inconnue, mais constante. Et je pense en effet qu'il ne travaille jamais si bien que quand il n'est pas connu. Parce que même la soi-disant compréhension humaine est déjà une déformation. Ça, c'est le sens de la phrase, c'est pas autre chose. Je ne parlais pas d'un phénomène cosmique.
avait dit dans de nos dernières séances que l'expérience commence que quand nous trouvons le décrit dans nous-mêmes.
Oui.
L'expérience ne commence que quand on trouve le décrit. Et c'est ainsi que cela perd sa qualité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Qu'est-ce qu'il raconte? L'expérience
ne commence pour vous que quand vous pouvez le décrire. Eh bien, quand vous pouvez le décrire, la majeure partie de son intensité, de sa capacité d'action pour la transformation intérieure et extérieure est déjà évaporée. Alors, comment profiter par l'expérience, vraiment?
Vous êtes sûr que c'est ça que j'ai dit?
Je vais le copier.
L'expérience ne commence pour vous que quand vous pourrez la décrire. Et bien, quand vous pouvez la décrire, la majeure partie de son intensité et de sa capacité d'action pour la transformation intérieure et extérieure est déjà évaporée.
Et alors?
La question est, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'expérience? S'il y a une expérience, sans pouvoir l'exprimer, qu'est-ce qu'il arrive?
Encore là? Ce que je voulais dire, c'est que l'expérience précède et dépasse de beaucoup la formulation que vous en faites dans votre esprit. L'expérience précède souvent de beaucoup la capacité de la formuler. L'expérience a une plénitude, une force, une puissance d'action directe sur la nature qui est immédiate, instantanée. Mettons, par exemple, que dans des circonstances données ou par une grâce exceptionnelle, vous avez été tout d'un coup mis en contact avec une lumière, une puissance, ou une conscience supramentale. C'est comme une brusque ouverture dans votre carapace fermée, comme une déchirure dans cette enveloppe opaque qui vous sépare de la vérité. Et le contact a été établi. Immédiatement, cette force, cette conscience, cette lumière agit même sur vos cellules physiques. Elle agit dans le mental, elle agit dans le vital, elle agit dans le corps. Change les vibrations, organise la substance et commence son travail de transformation. Vous êtes sous le choc de ce contact subit et de cette action. Pour vous, c'est une sorte d'état indescriptible, inexprimable, qui vous saisit et dont vous n'avez aucune notion claire, précise, définie. C'est quelque chose qui se passe. Ça peut vous donner l'impression d'être merveilleux ou formidable, mais pour vous, c'est inexprimable et incompréhensible. Ça, c'est l'expérience dans son essence et dans sa puissance véritable. Petit à petit, à mesure que l'action se prolonge et que l'être extérieur commence à assimiler cette action, il y a une capacité d'observation qui s'éveille d'abord dans la conscience mentale et une sorte d'objectivation se produit. Quelque chose dans le mental regarde, observe et traduit à sa manière. C'est ça que vous appelez comprendre, et c'est ça qui vous donne l'impression que vous avez une expérience. Mais ça, c'est déjà une diminution considérable sur l'expérience elle-même. C'est une transcription à l'usage de votre dimension mentale, vitale et physique. C'est-à-dire quelque chose qui se rétrécit, se racornit, et vous donne en même temps à vous l'impression que ça se clarifie. C'est-à-dire que c'est devenu à la mesure de votre compréhension. Ça, c'est un phénomène qui se produit toujours et dans les meilleurs cas. Je ne parle pas des cas où cette puissance de l'expérience est absorbé par l'inconscience de votre être et se traduit dans un mouvement de plus en plus inconscient. Je parle du cas où votre mental est clair, votre aspiration est claire et que vous avez déjà avancé assez considérablement sur le chemin. Et même quand votre mental commence à être transformé, quand il a l'habitude de recevoir cette lumière, qu'il peut en être pénétré, qu'il est assez réceptif pour l'absorber, de la minute où il veut traduire de façon compréhensible à la conscience humaine, je ne veux pas dire ordinaire, mais même la conscience humaine éclairée, de la minute où il veut formuler, préciser, rendre compréhensible, il réduit, il amoindrit, il limite, il atténue, affaiblit, estompe l'expérience, même en admettant qu'il soit assez pur pour ne pas la falsifier. Parce que s'il y a n'importe où dans l'être, dans le mental ou dans le vital, s'il y a une insincérité quelconque, qui est toléré, eh bien, l'expérience alors se falsifie et se déforme complètement. Mais je parle des cas les meilleurs. Je parle où l'être est sincère, sous contrôle, et qu'il fonctionne de la façon la plus favorable. La formulation en mots compréhensibles à l'esprit humain est nécessairement, forcément, une restriction, une diminution du pouvoir d'action de l'expérience. Quand vous pouvez vous dire d'une façon claire et consciente ceci et cela et ça encore s'est passé, quand vous pouvez décrire d'une façon compréhensible le phénomène, déjà il a perdu de sa puissance d'action, de son intensité, de sa vérité et de sa force. Mais ça ne veut pas dire que l'intensité, le pouvoir d'action et la force n'étaient pas là. Ils étaient là et probablement dans les meilleurs cas. L'effet maximum de l'expérience est produit avant que vous ne commenciez à lui donner une forme compréhensible. Je parle là des cas les meilleurs. Je ne parle pas des cas innombrables de ceux qui commence à avoir une expérience et dont le mental devient curieux, s'éveille et dit « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Alors, tout s'évanouit. Ou bien on attrape une queue déformée de quelque chose qui a perdu toute sa force et toute sa réalité. La première chose à faire, c'est d'apprendre à votre mental de ne pas bouger. Surtout ne bouge pas. Surtout ne bouge pas. Laisse la chose se développer pleinement sans vouloir savoir ce qui se passe. Ne fais pas l'imbécile. Reste tranquille, immobile et attends. Ton tour viendra toujours trop tôt. Jamais trop tard. Il faudrait pouvoir vivre une expérience pendant des heures et des jours sans sentir le besoin de se la formuler. Quand on fait ça, alors on en a le plein profit. Alors ça travaille, n'est-ce pas? Ça barate la nature, ça transforme les cellules, ça commence son vrai travail de transformation. Mais dès que vous commencez à voir et à comprendre et à formuler, c'est déjà quelque chose qui appartient au passé. Voilà.